Studio Tamani, voici nos informations en français.
Au sommaire de cette matinale, violation des droits de l'homme au Mali, la 48e session du Conseil des droits de l'homme tenue ce lundi à Genève déplore la mort de plus de 900 civils dans le pays entre janvier et juin 2021. La France, préoccupée par les discussions entre les autorités du Mali et la société privée russe Wagner, selon les autorités françaises, si ces discussions aboutissaient à un accord entre les deux parties, le pays pourrait retirer ses forces du territoire malien. Choléra à Ansongo, 3 personnes sont mortes et 6 sont en isolement. Sur place, les médecins demandent l'aide du gouvernement pour contrer la propagation de la maladie. Tout de suite, le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo à la mise en œuvre de Mamadi Keïta. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. L'ONU fait état de nouvelles violations des droits humains au Mali. La haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a révélé ce lundi qu'au moins 948 civils ont été tués, blessés, enlevés ou disparus entre janvier et juin 2021. Selon elle, ces faits sont imputables aux groupes armés et aux forces armées maliennes. Arkia Touré pour plus de détails.
Plus de 900 civils tués entre janvier et juin 2021 au Mali, des chiffres qui inquiètent la chef des droits de l'homme à l'ONU, Michelle Bachelet. À l'ouverture de la 48e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, Bachelet a déploré l'augmentation des atteintes aux droits de l'homme dans le pays. Selon ses propos, au Mali, à la suite du coup d'État du mois de mai, les activités extrémistes violentes et les graves violations et atteintes aux droits humains se poursuivent sans relâche. Elle a ajouté que l'impunité dont bénéficient les auteurs de ces crimes est un facteur important de cette détérioration de la situation. Cette déclaration fait suite au rapport de la MINUSMA qui avait abouti au même constat dans le pays. Au total, entre avril et juin, au moins 527 civils ont été tués par Russes, soit une augmentation globale de plus de 25% par rapport au premier trimestre. À l'origine de ces violences à l'encontre des civils, la MINUSMA accuse principalement le Jamaat Nusras al-Islam wal-Muslim, l'État islamique dans le Grand Sahara et autres groupes similaires. La haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, indique aussi que ces abus s'étendent désormais à des zones auparavant épargnées dans le sud du pays.
Ces violations des droits de l'homme provoquées par l'insécurité préoccupent les populations de Massina. À Kolongo, les avis sont partagés quant à la collaboration entre milices d'autodéfense et forces armées maliennes. Si certains pensent qu'il faut écarter ces groupes, d'autres estiment qu'ils maîtrisent mieux la zone. Écoutons ces réactions recueillies par notre correspondant Kader Traoré.
Aujourd'hui, dans le cercle de Massina, la situation sécuritaire est très très inquiétante. Les gens sont en train de quitter le lieu. Demain ou après-demain, on ne sait pas ce qui va se passer. La collaboration des Dozo et des forces armées, c'est impossible. Des hommes armés, c'est la cause réelle de la présence des Dozo. Pour moi, aujourd'hui, il faut écarter les Dozo.
La collaboration entre chasseurs et militaires, qui est bien. Parce qu'il y a des lieux là où il n'y a pas de militaires. Les Dozo, là, eux, ils connaissent toute la brousse.
Là où nous en sommes, ça se dégrade. À Kolongo, on attendait des lieux. Là, c'est rentré par Kona. C'est rentré par Diabali, c'est rentré par Burkessi, jusqu'à chez nous, à Kolongo.
Bon, il faut prendre des mesures en sécurisant la localité. Il faut la présence des forces. La zone est vraiment menacée.
La station sécuritaire, c'est un peu inquiétude, mais les gens ne doivent pas vraiment s'enfuir, quoi.
Pendant ce temps, la France, qui s'inquiète des discussions entre les autorités maliennes et une société privée russe, Wagner, interrogée par les députés français, la ministre française des armées, Florence Parly, s'est dit préoccupée par l'éventuelle signature d'un accord entre Bamako et cette société privée composée de militaires russes. Elle a indiqué que si tel était le cas, ce serait extrêmement préoccupant et contradictoire et incohérent. Pas de réaction officielle du côté des autorités maliennes. La direction de l'information et des relations publiques de l'armée approchée hier nous a indiqué qu'il n'y a eu aucune signature entre le Mali et une société russe. Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. 8h04 à Bamako, une formation de renforcement des capacités en faveur des jeunes avocats et des collaborateurs d'avocats a débuté lundi dernier à l'hôtel Colibri à Bamako, organisée par Amnesty International Mali et ses partenaires. Cette session entre dans le cadre du projet Observatoire citoyen contre l'impunité et la redevabilité Oxypre pour lutter contre l'impunité au Mali. Un compte-rendu de Aïssata Diarra.
Pour Amane Touré, directeur exécutif par intérim d'Amnesty International Mali, cette session a pour objectif de permettre à une vingtaine d'avocats formés de lutter contre l'impunité dans les pays.
Amnesty a fait beaucoup de recherches sur la question des droits de l'homme. Nous avons constaté qu'il y a eu des graves violations des droits humains, mais il y a beaucoup d'impunités qui sont autour de ces violations. Nous pensons que le fait de renforcer les capacités aussi des jeunes avocats va amener les avocats à s'intéresser à ces questions pour que, au niveau de nos juridictions, apparaissent ces problématiques de droits humains.
Ce renforcement des capacités nous permettra de mieux défendre les droits et la justice dans les pays, expliquent certains bénéficiaires.
Cela permettra maintenant de parler un peu comment les droits humains doivent être respectés au Mali, parce que en tant qu'acteur de la justice, il faut être impartial. C'est une garantie pour l'état des droits ainsi que la démocratie.
Je pense que c'est une très belle initiative. Ça permet déjà à nous, futurs avocats, de pouvoir défendre nos droits d'abord afin de pouvoir défendre d'autres personnes.
Au terme de cette formation, des procès fictifs seront organisés pour permettre aux jeunes avocats d'avoir une idée sur le procès, ajoutant le président d'Amnesty International Mali.
Une étude menée par MJP Mali Justice Project sur le financement de l'assistance juridique a été débattue hier à Bamako. L'objectif, selon les organisateurs, était d'inciter les acteurs du secteur privé à financer l'assistance juridique et judiciaire en vue de la mise en place d'un cadre opérationnel du financement de l'assistance juridique et judiciaire. Amsetou Gogo Touré pour le reportage.
Plusieurs facteurs rendent difficile l'accès à la justice, explique Jean Lavoie, directeur pays de Mali Justice Project.
Dans les communautés, très souvent, il n'y a pas de juridiction ou à cause de l'insécurité, effectivement, les seules personnes qui peuvent procéder à un règlement des conflits et à une désescalade également des tensions sont souvent des gens de la société civile qui sont présents sur le terrain, connaissent très bien le terrain et qui peuvent intervenir auprès des communautés parce qu'il y a quand même ce lien de confiance qui existe.
Cet avis est aussi partagé par le représentant du ministère de la Justice. Mohamed Najim affirme que les populations rencontrent d'énormes difficultés dans l'accès à la justice.
Le juge n'est pas partout au Mali. Les lenteurs dans le traitement de certaines affaires, la présomption de corruption des acteurs du monde judiciaire, l'ignorance par une grande partie des citoyens de leurs droits et le coût encore beaucoup trop élevé.
Selon Maurice Koulibaly, un des panélistes, ces dispositions prises permettront de faciliter l'accès des populations les plus vulnérables à la justice.
Une partie de ce fonds pourrait inciter des jeunes avocats qui viennent d'être admis au barreau à s'implanter plutôt dans ces zones-là en leur garantissant un revenu qui leur permette de s'occuper des populations.
À noter qu'une cinquantaine d'acteurs prennent part à cette conférence.
Je vous le disais dans les titres, des cas de choléra détectés dans des localités du cercle d'Ansongo dans la région de Gao, c'est au nord du Mali. L'information est confirmée par le ministère de la Santé dans un communiqué en date du 11 septembre 2021. Déjà, 3 morts sont enregistrés et 6 cas en isolement, rapporte le médecin-chef du cercle d'Ansongo. La population inquiète demande l'appui des autorités pour éviter la prorogation de la propagation plutôt de la maladie. Les détails avec Adama Modouaïdara.
C'est à Labezanga, localité située dans le cercle d'Ansongo, que le premier cas est apparu. Les autorités sanitaires essayent pour le moment de limiter la contamination, mais expriment le besoin d'appui en termes de sensibilisation et autres moyens de prévention. Docteur Abdulaziz Meiga, médecin-chef à Ansongo.
Malheureusement, il y a 2 ou 3 jours de cela, il y a des cas suspects de maladie à choléra qui sont déclarés dans un centre de santé dans Labezanga, où c'est un parent qui a séjourné dans le village pendant 48 heures, qui a évacué qui quitté auparavant Ayuru et juste de son passage 48 ans après, une jeune fille de 17 ans a succombé suite à des diarrhées et vomissements. Et commence le compte à rebours. Deux jours après, c'est un jeune garçon et une vieille qui décèdent et en isolement au 16 camp de la Bézanga. Aujourd'hui, nous sommes 6 malades actifs qui sont au niveau de l'Abbé Hill, qui sont isolés et qui sont pris en charge par nos services.
L'apparition de cette maladie inquiète les habitants de la ville d'Ansongo. Ils demandent au gouvernement une prise en charge rapide afin de contenir l'épidémie.
C'est une grande inquiétude. C'est juste un phénomène qui nous arrive. Ce n'est pas notre souhait, mais quand même on verra avec. Et puis, compte sur Dieu et puis sur le gouvernement actuel.
C'est pas loin de nous. Tôt ou tard, ça peut venir. Donc, on doit prendre les précautions pour ça.
Nous avons vraiment peur à ce que le choléra revient dans notre cercle.
En attendant, les spécialistes de la santé en appellent au sens hygiénique de la population, un des moyens efficaces pour faire face à la maladie.
La transition est toute trouvée pour faire le point de l'évolution de la maladie à coronavirus. 7 nouveaux cas positifs, 11 guéris et 0 décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. La situation cumulée est donc de 14 991 cas positifs. 14 188 guéris et 583 décès. Retrouvons à présent Moumine Sendebo pour la rubrique Actu Covid.
Comment éviter la contamination à la COVID-19 dans les restaurants en utilisant les mêmes assiettes et couverts? La consommation de la banane protège-t-elle contre le coronavirus? Les femmes enceintes peuvent-elles se faire vacciner? Ce sont entre autres les questions que des spécialistes de la santé répondent dans ce numéro d'ActuCovid. Bonjour à tous et bienvenue.
Bonjour docteur, comment éviter la COVID-19 dans les restaurants et bars où les gens utilisent les mêmes assiettes et verres?
On a la possibilité de transmettre à beaucoup de gens. Pour cela, il faut limiter, il faut éviter le rassemblement là, ça c'est un. Et de deux, il faut laver les assiettes avec l'eau de javel ou du savon ou bien l'eau chlorée. Ensuite, au moins désinfecter les assiettes, les cuillères, les fourchettes.
Allô docteur, certains disent que consommer la banane est un facteur pour éliminer le virus. Est-ce vrai?
Le confirmer comme ça, et on ne peut que le mettre dans le renforcement de votre organisme. Si vous avez un corps renforcé, vous résistez. Mais ce renforcement de l'organisme peut se trouver dans certains aliments, comme le citron. Mais la banane, pas forcément, puisque elle est aussi riche en sucre, et ces sucres aussi, en certaines quantités, peuvent être toxiques pour notre organisme.
Bonjour docteur, est-ce possible d'avoir le coronavirus à travers la sueur?
Il y a des études en cours, mais jusque-là, on n'a pas d'études qui démontrent réellement que la sueur est source d'infection.
Bonjour docteur, on remarque dans les centres de prise en charge que les hommes sont plus nombreux que les femmes. Y a-t-il une explication scientifique à cela?
Vraiment, on n'a pas de recul pour parler de Covid déjà. Peut-être il s'agira de la susceptibilité génétique et aussi du fait que l'homme est plus mobile que la femme.
Allô docteur, est-ce qu'une personne guérie de la COVID-19 peut se faire vacciner?
L'OMS aujourd'hui recommande d'attendre 6 mois après avoir été guéri pour se faire vacciner. Donc pourquoi on demande d'attendre 1 mois, 2 mois, 6 mois? C'est exactement pour ne pas faire la confusion entre les effets secondaires post-COVID et les effets secondaires de la vaccination.
Allô docteur, est-ce qu'une femme enceinte peut faire les vaccins?
La femme enceinte qui porte une grossesse au deuxième et au troisième trimestre, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, les femmes enceintes vaccinées, on s'est rendu compte que le vaccin protégeait en plus les enfants naissaient avec des anticorps protecteurs.
C'est ce qu'on pouvait retenir pour les informations sur le coronavirus. Merci pour votre aimable attention et à bientôt pour une autre tranche.
Et ce petit rectificatif, le nombre de décès liés à la COVID enregistrés depuis le début de la pandémie est de 543 décès au lieu de 583. Un mot de sport à présent, le président de la Fédération internationale de basketball FIBA Monde, également ancien président de la Fédération malienne de basketball, Amman Yang, a été blanchi dans l'affaire dite de harcèlement sexuel. Un rapport publié par le journal américain New York Times l'accusait d'avoir fermé les yeux sur des cas de viol et d'abus sexuels alors qu'il était à la tête de la Fédération malienne de basketball entre 1999 et 2011.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité à l'intérieur du pays, une cinquantaine de femmes, de jeunes, d'élus et de représentants de services techniques ont échangé avant le 13 septembre dernier sur les élections à travers une conférence débat à Koutiala. Selon les organisateurs, la rencontre a permis à la population de comprendre tous les enjeux liés au vote. Le thème retenu était « Mali, faut-il rendre le vote obligatoire ?» La rencontre a été organisée par le collectif des utilisateurs des réseaux sociaux de la localité. Elle était financée par l'ambassade royale du Danemark au Mali à travers le FAMOC. Elle s'inscrivait dans le cadre du projet Sirakura. Le village de Dar Salam dans la commune de Selinkin, cercle de Bafoulabé, a inauguré deux salles de classe et deux latrines à l'école fondamentale de la localité la semaine dernière. Les travaux qui ont duré trois mois ont coûté 8,2 millions de francs CFA. Ils ont été financés par l'IANS Coopération à travers le jumelage Ronco Selinkeni. Ces infrastructures permettront d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants. La cérémonie a enregistré la présence des autorités scolaires et locales. Et c'est ce qui met fin à ce journal qui vous a été présenté par Sekou Gadjigo. Merci de l'avoir suivi à la mise en onde. C'était Mamadi Keïta. N'oubliez pas, vous pouvez réécouter cette édition sur notre site studiotamani.org ou en appelant au 37 321.